Le début de la quête de Siddhartha. N'oubliez pas. Les quatre visions de la maladie, de la vieillesse, de la mort et celle d'un nomade à la recherche de la vérité marquent le début de la quête spirituelle du prince. Leur importance dans l'histoire du bouddhisme est incontestable et des descriptions de ces rencontres cruciales pour Siddhartha sont souvent peintes sur les murs de temples bouddhiques. Après avoir réalisé qu'il ne pouvait plus rester dans la prison dorée qu'était sa vie royale, Siddhartha alla voir son père et lui demanda la permission de partir. Le roi réagit comme beaucoup de pères le feraient dans des situations semblables. Il piqua une crise de colère. Il interdit formellement au prince de partir et posta un gardien à toutes les portes du palais pour empêcher son départ. Mais le prince avait pris sa décision. Siddhartha voulait prendre son enfant dans ses bras avant de partir, mais il décida de ne pas le faire de peur de réveiller Yashodhara. Il passa en silence devant les musiciens, les danseuses et les domestiques endormis, et sortit pour réveiller Channa, le conducteur de son char, et lui demander de préparer son cheval. Channa fut surpris, mais il obéit au prince. Tout le monde dans le palais, y compris les gardes, s'était endormi. Souvenez-vous de la scène de la Belle au bois dormant où tout le monde s'assoupit soudainement, et Siddhartha put ainsi s'échapper. Channa et lui voyagèrent toute la nuit, et lorsqu'ils s'arrêtèrent, Siddhartha ordonna à Channa de rentrer au palais sans lui et d'y ramener son cheval et ses bijoux royaux. Channa se mit à pleurer et demanda ce qu'il devait dire à Yashodhara et à Rahula, qui, sans aucun doute, seraient éperdus de douleur. « Dis-leur, » répondit Siddhartha, « que je ne suis pas parti parce que je ne les aime pas. C'est justement parce que je les aime vraiment et parce que je dois absolument trouver un moyen de surmonter la souffrance, la maladie, la vieillesse et la mort. Si je réussis, je reviendrai. Sinon, la mort nous séparera de toute façon. » Channa ne put rien faire d'autre que rentrer seul. Siddhartha était donc seul désormais, et la première chose qu'il fit fut de se débarrasser des signes extérieurs de noblesse qu'il portait. Il coupa ses longs cheveux flottants, échangea ses vêtements de soie contre l'habit grossier d'un habitant de la forêt, et renonçant complètement à son ancien mode de vie, il partit à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'aider dans sa quête. Après son grand renoncement, écoutez le passage « La signification du renoncement » un peu plus loin dans le chapitre. Siddhartha rencontra deux instructeurs spirituels de renom et il étudia auprès d'eux. Rapidement parvenu à une maîtrise des techniques de méditation que ceux-ci lui enseignèrent, il se rendit pourtant compte que, bien qu'utiles, ces techniques ne suffiraient pas à elles seules à lui apporter la libération complète de la souffrance qu'il voulait. Il devait approfondir sa recherche. Siddhartha entendit parler d'une forêt du royaume de Magadha où des ascètes, c'est-à-dire des gens qui se refusent le moindre confort, se rassemblaient souvent pour y exercer leur pratique. Et il décida immédiatement de s'y rendre et de se joindre à eux. En chemin, il attira l'attention du souverain de Magadha, le roi Bimbisara. Le roi fut si impressionné par l'attitude et par l'engagement du jeune homme qu'il demanda immédiatement à Siddhartha de rester et de l'aider à gouverner. Mais Siddhartha expliqua poliment qu'il avait déjà abandonné une vie royale et qu'il n'avait aucunement envie d'en assumer une autre. Bimbisara dit alors à Siddhartha que si jamais il trouvait ce qu'il recherchait, il devrait revenir et lui donner son enseignement. Lorsque Siddhartha arriva à la forêt, il trouva 5 ascètes engagés dans des pratiques très sévères, d'auto-mortification entre autres. Ceux-ci espéraient qu'en gagnant le contrôle complet sur leurs sens et en endurant des douleurs et des privations extrêmes, ils pourraient surmonter la souffrance grâce à l'unique force de la volonté. Siddhartha adopta ces pratiques et bientôt sa concentration et sa détermination extraordinaires convainquirent ses nouveaux compagnons que si jamais un seul d'entre eux devait atteindre l'objectif, ce serait le nouveau venu. C'est ainsi que commence une ascèse qui durera 6 ans. Siddhartha resta assis exposé aux éléments jour et nuit. Il mangea de moins en moins, pour finir par ne plus consommer que quelques graines emportées par les vents qui tombaient sur ses genoux. Son corps, autrefois si superbe et si beau, devint flétri et ratatiné. Finalement, ses pratiques ascétiques réduisirent plus ou moins Siddhartha à l'état de squelette vivant, mais il persévéra. Un jour, Siddhartha dressa le bilan de sa situation. Il découvrit que dans son état affaibli, il ne pouvait pas penser aussi clairement qu'avant. En conséquence, il se trouvait plus éloigné de son objectif que lorsqu'il avait commencé sa quête 6 ans auparavant. Fatigué et sale, il décida d'aller se rafraîchir dans un fleuve proche, mais il faillit se noyer avant d'en ressortir. Alors que Siddhartha était allongé sur le bord du fleuve en train de se remettre, il comprit que s'il devait un jour réussir, il devrait suivre la voie du milieu entre le confort personnel et les austérités extrêmes. Plus tard, ce terme, la voie du milieu, prit de plus en plus de sens et devint le nom que le Bouddha employa lui-même pour désigner son enseignement. Aujourd'hui encore, le bouddhisme est connu comme étant la voie du milieu qui évite les extrêmes. Siddhartha se rassit et la femme d'un bouvier du coin entra bientôt dans la forêt avec des offrandes destinées aux esprits de la forêt. Elle s'appelait Sujata et elle avait souvent prié les esprits de la forêt pour donner naissance à un garçon. Maintenant qu'elle avait donné naissance à l'enfant qu'elle avait si profondément désiré, elle venait à la forêt avec un bol de riz au lait, tout spécialement préparé pour remercier les esprits de lui avoir exaucé son désir. Lorsqu'elle vit Siddhartha assis là, elle le prit pour le roi des esprits qui l'avait aidé, et elle lui présenta l'offrande nourrissante avec une grande dévotion. Lorsque ses 5 compagnons d'ascèse le virent accepter ce mets raffiné, ils furent profondément déçus. Croyant que Siddhartha avait abandonné sa quête, ils quittèrent la forêt écœurés, déterminés qu'ils étaient à poursuivre leur pratique quelque part ailleurs. Après avoir fini de manger, son corps regagna de l'éclat et de la vigueur, et Siddhartha remercia la femme du bouvier. Il lui dit qu'il n'était pas l'esprit pour qui elle l'avait pris, mais un simple homme à la recherche du chemin qui mettrait fin à toute souffrance. Et aussi que grâce à son offrande, il se sentait maintenant suffisamment fort pour réussir.
L'interprétation de l'histoire du Bouddha. Même dans cette version de l'histoire du prince Siddhartha, donnée par le Reader's Digest, vous avez peut-être trouvé qu'il est difficile de prendre l'histoire pour argent comptant. Par exemple, comment quelqu'un d'aussi brillant que Siddhartha pourrait-il atteindre l'âge de 29 ans sans rien savoir encore de la maladie, de la vieillesse et de la mort ? Comment les précautions de son père, fut-il le plus protecteur des pères, purent-elles le protéger de ces dures réalités ? Et pourtant, malgré ces objections, l'histoire semble exacte à un niveau profond. Même dans le monde moderne de communication mondiale instantanée et d'autoroute de l'information, les gens parviennent à éviter de voir ce qui se trouve juste devant eux. Les sans-abri remplissent les rues, mais la plupart des gens ne les voient pas. Dans les hôpitaux où la mort est partout, on cache souvent la vérité sur l'état de santé d'un mourant à cette personne. Et nous avons entendu parler de certaines communautés dans lesquelles les processions funéraires ne peuvent se dérouler que la nuit, pour éviter d'effrayer les gens. C'est donc la dénégation qui prévaut. Et on peut voir que tout le monde joue ce jeu. Lorsque la réalité des malheurs de la vie arrive à percer ce mur de dénégation, l'expérience peut être catastrophique, et peut-être même changer une vie. Comme Siddhartha, nombreux sont ceux qui, à la suite d'un épisode inattendu de souffrance ou de perte, détournent leur attention de l'objectif de réussite matérielle pour la tourner vers le sentier spirituel. Bien sûr, seuls très peu de gens abandonnent vraiment tout, comme Siddhartha, pour se mettre à la recherche de la vérité dès que la maladie ou la mort pointent pour la première fois le bout de leur nez.